France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Cette avancée dans la lutte contre certains cancers, tout cela grâce au vaccin anti-Covid, découverte de chercheurs américains que l'on vous détaille dans un instant. Et avec notre invité, le professeur Jean-Yves Blé, il nous dira quels sont les cancers concernés. À suivre encore la perpétuité incompressible requise ce matin contre Dabia Benkired au procès du meurtre de Lola. Les jurés viennent de se retirer pour délibérer. Des expertises stylométriques utilisées pour la première fois en France dans l'affaire de la mort du petit Grégory, sa grand entente vient d'être mise en examen pour association de malfaiteurs criminels. Et puis le budget 2026 étudié à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Dans une ambiance qui s'annonce houleuse.
Le Premier ministre en personne à l'Assemblée, un hémicycle qui sera plein à craquer, 7 jours top chrono pour faire adopter le volet recettes. Le PS menace à nouveau de censurer.
A tout de suite, nous parlerons aussi de la commune de Vendôme qui ne pourra pas vendre son nom à LVMH, de l'argent de poche de nos ados et puis du jambon espagnol. Bonjour Sophia Berada.
Bonjour.
Trois entreprises d'Île-de-France mises en cause.
Oui, on leur reproche de peut-être vendre des jambons moins haut de gamme que ce que l'appellation Pata Negra exige.
Vous allez nous expliquer tout cela à partir de 13h30. La véritable histoire du livre Vipère au poing, un classique de nos bibliothèques. La journaliste Émilie Lanaise révèle que son auteur Hervé Bazin s'est inventé une enfance martyre et elle redresse le portrait de sa mère, la célèbre Folcoche. C'est le titre de son enquête. 0145 24 7000. Pour vos questions, 13h50, c'est la France en montagne avec les rois de la vitesse, les skieurs de descente qui ne veulent plus mettre leur vie en danger, nous dira Virginie Troussier. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, Barbara et la comédienne Isabelle Gélinas avec Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
C'est un effet inattendu des vaccins contre le Covid-19. Il pourrait aider à traiter certains cancers. Il renforce en effet l'efficacité de l'immunothérapie. Des chercheurs américains viennent de publier le résultat de leurs travaux dans la revue Nature. Bonjour Victor Delange.
Bonjour Jérôme.
Que disent-ils précisément?
Ces chercheurs américains ont en fait réalisé ce qu'on appelle une étude statistique. Ils ont donc analysé les dossiers médicaux de près de 1000 patients traités pour des cancers avancés de la peau et du poumon entre 2019 et 2023. Et à leur grande surprise, ceux qui avaient reçu un vaccin contre le Covid dans les 100 premiers jours après le début du traitement contre le cancer, en l'occurrence une immunothérapie, eh bien ces patients ont survécu près de deux fois plus longtemps. Ce qu'il faut bien comprendre, Jérôme, c'est qu'un taux de survie presque doublé pour des patients atteints de cancer, ce sont des résultats vraiment extraordinaires. D'autres études cliniques plus classiques devront être poursuivies, mais le vaccin Covid ARN messager semble en effet booster, amplifier l'efficacité des immunothérapies données en traitement du cancer. Chez ces malades, le vaccin va agir comme une alarme, il déclenche la libération de protéines de signalisation immunitaire appelées cytokines, dont l'interféron de type 1. Et par un mécanisme un peu complexe, ces protéines vont entraîner ensuite une meilleure réponse du système immunitaire des patients pour lutter plus efficacement contre les cellules tumorales.
Merci Victor Delande. Pour en savoir plus, le professeur Jean-Yves Blé est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du Centre anti-cancer Léon Bérard de Lyon. Vous êtes également le président d'UniCancer. Avant tout, Jean-Yves Blé, c'est un peu complexe. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'immunothérapie ?
L'immunothérapie, c'est une stratégie thérapeutique pour le cancer qui consiste en fait à stimuler le système immunitaire du patient avec différents outils, dont des anticorps qui ont été utilisés ici.
Et donc, cette immunothérapie plus les vaccins contre le Covid-19 favorisent la résistance contre les cancers. Est-ce qu'on sait comment ces chercheurs sont partis sur cette piste? Est-ce qu'on sait ce qui a pu leur mettre la puce à l'oreille?
Oui, il y a plusieurs éléments qui les ont fait démarrer. Tout d'abord, des observations dans des modèles expérimentaux, précliniques, comme on les appelle, c'est-à-dire chez l'animal, montrant que le vaccin stimulait un certain niveau de réponse immunitaire. Ensuite, ils sont allés observer chez les patients quels étaient ces niveaux de stimulation de la réponse immunitaire qui étaient observés chez les patients qui étaient vaccinés dans les jours, les semaines qui suivaient. Et ils ont observé une activation, ce qu'on appelle une activation spécifique et non spécifique. Et de ce fait-là, et puis en lien également avec des études précédentes qui avaient déjà montré que les patients qui étaient vaccinés avaient une espérance de vie qui était un peu supérieure, ils ont assez légalement démontré que dans les patients qui avaient été vaccinés dans les 100 jours avant de débuter cette immunothérapie, notamment pour des cancers du poumon et des mélanomes, on observait une augmentation très significative de la survie sur le moyen et le long terme en fait, puisqu'ils sont allés regarder jusqu'à 3 ans.
Vous avez parlé cancer du poumon. c'est ça,
c'est ça.
De la peau, mélanome. Quels sont les cancers qui pourraient être concernés, traités et mieux traités?
Alors, tout d'abord, ces deux maladies-là doivent être, on doit vérifier ces observations sous d'autres études. Ça, c'est un élément évident. Mais d'une manière générale, on peut tout simplement souligner que beaucoup de cancers, la majorité des cancers actuellement, sont traités par immunothérapie à différentes étapes, hein, soit aux étapes précoces de la maladie, soit aux étapes tardives. Donc, les applications potentielles sont très larges, en fait.
C'est quand même un sacré retournement, Jean-Yves Vlet, parce qu'on se souvient qu'encore très récemment, l'ex-directeur de l'IHU de Marseille, Didier Raoult, suggérait sur les réseaux sociaux qu'il y avait en fait un lien entre vaccin Covid et hausse des cas de cancer. Là, le résultat est exactement inverse.
Alors oui, c'est quelque chose qui est assez surprenant, qui peut paraître assez surprenant, mais il faut se souvenir que la stimulation du système immunitaire par des vaccins est quelque chose que l'on a utilisé de longue date pour obtenir des réponses antitumorales. Je voulais simplement rappeler ici l'utilisation du BCG à ce titre-là, qui est encore utilisé pour certains cancers de vessie. Donc c'est pas si surprenant que cela, mais là on a une démonstration tangible et assez solide au vu de la qualité de l'étude qui a été produite.
Jean-Yves Blé, je vous garde avec nous parce que je voudrais vous faire réagir au sujet qui arrive et qui concerne aussi des cancers, parce qu'il y a des cancers qui peuvent être déclenchés par des polluants éternels, des PFAS. Par exemple, l'un d'eux, le PFOA, est classé comme cancérogène pour l'homme depuis 2023. C'est donc très important de savoir où se trouvent ces PFAS. Et dans la région de France la plus contaminée, c'est la vallée de la Chimie, au sud de Lyon. 150 communes vont faire passer des tests à leurs habitants, des analyses de sang pour savoir qui a consommé quoi et où et dans quelle proportion. Les communes vont payer 100 000 euros pour cette étude, Christophe Vincent.
Dès lundi, 500 adultes du sud lyonnais, du nord Isère et de l'Ardèche seront tirés au sort pour effectuer une prise de sang et répondre à un questionnaire. Le maire LR d'Oulin Pierre Bénite, Jérôme Moroge.
C'est de enfin pouvoir dire oui, effectivement, en fonction d'où j'habite, j'ai davantage de perfluoré dans le sang.
Dans le couloir de la chimie, les habitants veulent savoir. Michel Boulu et Jean-Philippe Chaunet sont maires de Simandre et Communet.
Ces PFAS, on dit qu'ils sont éternels. Est-ce que vraiment ils restent ou au fil du temps, ils partent du corps, quoi? Et cette étude, elle est importante pour ça, de savoir combien de PFAS portent les gens sans le savoir, quoi.
Il y en a toujours qui boivent l'eau, il y en a qui achètent des bouteilles. C'est pour ça qu'on a sécurisé dans nos écoles pour que nos petits puissent boire de l'eau qui soit traitée. Ils sont toujours inquiets et il faut qu'on puisse avancer sur ce sujet.
Pour l'avocat du collectif, Jean-Marc Ours, c'est une étape majeure.
95% des Français seraient contaminés par les PFAS, ce qui n'est quand même pas rien. Savoir qu'il y a du PFAS dans les légumes, dans les œufs, dans les fruits, c'est déjà déterminant. Mais savoir qu'il est dans le corps humain et qu'il y est durablement, c'est quand même une information qui devrait être prise en compte par la justice et les autorités administratives.
Près de 400 000 habitants concernés en sauront plus en janvier.
Christophe Vincent à Lyon pour Inter. Jean-Yves Blé, vous êtes précisément cancérologue à Lyon. Comment vous saluez cette initiative des maires tout près de chez vous?
Je pense que faire ce type d'étude est extrêmement instructif et me permettra de rassembler plus d'informations. Effectivement, il y a un certain nombre de PFAS qui ont été incriminés comme pouvant augmenter le risque de certains cancers. Et donc, ce sont des études qui sont importantes et qui nous permettront d'améliorer nos connaissances.
Merci d'avoir été en ligne avec nous aujourd'hui. Jean-Yves Blé, cancérologue, directeur général du Centre anti-cancer Léon Bérard de Lyon. La perpétuité incompressible, c'est la peine la plus lourde prévue par notre code pénal, celle qui peut vous envoyer en prison pour au moins 30 ans. Cette peine n'a jamais été prononcée contre une femme dans notre pays. Et bien ce matin, elle a été requise contre Dabia Benkired, accusée du viol et du meurtre de Lola, 12 ans, à Paris, c'était il y a 3 ans. Ce matin, devant la cour d'assises de Paris, dans son réquisitoire, l'avocat général s'est exprimé. Bonjour Pierre de Cossette.
Bonjour.
Vous êtes en direct du palais de justice de Paris. Réquisitoire implacable.
Oui, au terme d'une démonstration d'un peu plus d'une heure, et tandis que l'accusé le fixait du regard, celui qui défend les intérêts de la société s'est adressé au juré, leur a demandé de se prononcer ni par haine, par méchanceté ou pour suivre les pressions extérieures, mais en responsabilité. Et pour lui, la conclusion qui s'impose, c'est l'extrême dangerosité criminologique de Dabia Benkired, le risque de crime sériel, son absence d'évolution positive depuis les faits, et son âge, 27 ans, qui rend possible à ses yeux la récidive en cas de libération. libération anticipée. Avant d'en arriver là, l'avocat général est revenu sur ce 14 octobre 2022, Lola qui rentre chez elle, insouciante comme on a le devoir de l'être quand on a 12 ans, dit-il, qui croise Dabia Benkiret, qui ne se méfie pas, le piège qui se referme, et 7h30 de supplice durant laquelle Lola se fera méticuleusement ôter son enfance, sa féminité et son humanité. Mais il est aussi revenu sur le profil de l'accusée, perverse mais pas malade mentale, et qui a fait tout cela en pleine conscience. Voilà pourquoi l'avocat général demande la peine maximale, la perpétuité incompressible réservée aux crimes les plus graves. Si les jurés le suivent, Dabia Benkiret ne pourra demander un aménagement de peine qu'au bout de 30 ans de réclusion, mais sans grande garantie de l'obtenir. Il y a quelques minutes, les jurés se sont retirés pour délibérer après la plaidoirie de la défense et après, comme de coutume, les derniers mots de l'accusé. Une simple phrase de Dabia Benkiret : je demande pardon, c'est horrible ce que j'ai fait et c'est tout ce que j'ai à dire.
Pierre de Cossette en direct du Palais de Justice de Paris. Le verdict est donc attendu dans les prochaines heures. Autre affaire qui concerne la mort d'un enfant, le meurtre du petit Grégory, retrouvé noyé à l'âge de 4 ans en 1984 dans une rivière des Vosges. Son meurtrier n'a jamais été identifié. Mais la justice soupçonne la grand-tante du garçonnet, Jacqueline Jacob, 81 ans, d'avoir menacé durant des années la famille de Grégory à coups de lettres anonymes. Elle était entendue depuis ce matin à Dijon, 40 ans après les faits. Bonjour Delphine.
Bonjour Jérôme.
Et les avocats de Jacqueline Jacob annoncent à l'instant sa mise en examen.
Oui, mise en examen pour association de malfaiteurs criminels à l'issue donc de moins de 3 heures d'audition. Elle avait déjà été poursuivie en 2017, avait même fait 4 jours de prison. Une mise en examen annulée un an plus tard pour vice de forme. Jacqueline Jacob, la grande tante, est soupçonnée d'être un des corbeaux dans cette affaire, d'être l'autrice de 3 courriers anonymes de menaces à la famille du petit Grégory en 83, mais aussi d'être à l'origine de la lettre de revendication envoyée le 16 octobre 84. La justice se base notamment sur de nouvelles analyses stylométriques menées en 2021 et 2023. Contrairement à la graphologie qui s'intéresse à la forme des lettres, de l'écriture, la stylométrie, elle s'intéresse au fond. Florent Cafiero est ingénieur au CNRS et spécialiste stylométrie.
C'est une discipline qui s'intéresse à ce qui est propre dans le langage à une personne en particulier. Quels sont les tics de vocabulaire, quelle est la structure des phrases, etc., que quelqu'un va employer préférentiellement et que d'autres personnes ne vont pas employer. Donc ça nous permet, juste à partir de ce qui est dit ou écrit, de comprendre qui parle.
Et c'est la première fois que cette technique est utilisée dans un dossier judiciaire français. La justice est une enfant qui n'apprend pas de ses erreurs, estiment les avocats ce matin de Jacqueline Jacob. Ils annoncent qu'ils vont faire appel de cette mise en examen.
Merci Delphine Evenou. En Corse, un chef d'entreprise du bâtiment et travaux publics a été tué par balle à Borgo tôt ce matin. Cet homme de 35 ans était en train d'ouvrir son entreprise quand il a été pris pour cible. Une enquête est ouverte pour homicide volontaire et association de malfaiteurs par le parquet de Bastia.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Quel budget pour la France l'an prochain? Voilà la question en jeu à partir de cet après-midi à l'Assemblée nationale où débute donc l'examen de la partie recette de ce budget. Après le rejet du texte en commission, on repart à zéro, à partir donc de la copie du gouvernement. Gouvernement qui a promis par la voix du Premier ministre qu'il n'utiliserait pas l'article 49.3 pour couper court au débat. Marie Mollet, on vous retrouve. C'est donc une situation, Marie, qui est inédite. Comment ça va se passer aujourd'hui?
Eh bien d'abord, Sébastien Lecornu, en personne, va monter à la tribune pour introduire les débats. C'est inhabituel, inédit, vante son entourage. Car en effet, depuis 2022, pendant l'examen des budgets, un Premier ministre qui rentrait dans l'hémicycle, c'était le signe du débat. Déclenchement d'un 49-3. Début de séance donc à 15h et très vite un obstacle, une motion de rejet déposée par la France Insoumise, même si elle a peu de chances d'être adoptée, et ensuite le vif du sujet, les débats, avec immédiatement des points brûlants, le gel du barème de l'impôt sur le revenu, 2 milliards d'euros à la clé, examiné dès ce soir, puis la fiscalité des plus riches, notamment la taxe sur les holdings et la taxe Zucman portée par la gauche.
Chaque voix va compter, donc il faut que tout le monde soit là.
Exactement, consigne a même été passée dans tous les groupes, assiduité, présence requise dans l'hémicycle, des roulements ont été organisés, car cette fois la règle du jeu a changé. Jusqu'ici, l'usage du 49-3 balayait les amendements adoptés par les députés en séance, on revenait à la copie du gouvernement. Cette fois, pas de 49-3, donc un amendement adopté viendra effectivement modifier le texte initial. Marine Le Pen, par exemple, l'a dit à ses députés, à partir de maintenant, les circonscriptions passent après, priorité au budget.
Les socialistes sont toujours en position de force, ils ont remis la pression ce matin.
Oui, s'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi, les socialistes voteront voteront contre et censureront avant la fin des débats budgétaires, menace d'Olivier Faure ce matin sur X. Car en effet, en commission, le PS a essuyé de nombreux échecs. La taxe Zuckmann, l'ISF climatique ont été écartés. Le PS somme le gouvernement de lâcher du lest et à faire des compromis.
Que se passe-t-il, Marie, si dans 10 jours, ce volet recette est rejeté?
Eh bien, à ce moment-là, on revient à la copie initiale, celle du gouvernement. C'est cette version qui partira pour examen au Sénat et les amendements adoptés par les députés pendant les 7 prochains jours seront perdus.
Merci Marie Mollet pour ces précisions. Vous parliez de Marine Le Pen, la chef de file des députés RN à l'Assemblée nationale. Elle est en ce moment même devant le musée du Louvre où elle s'exprime et où elle estime que le casse du Louvre dimanche dernier est un vol, je cite, inadmissible et une blessure. Fin de citation. C'est un dossier que suit le gouvernement, celui de la reprise de la fonderie de Bretagne à Caudan dans le Morbihan. Le site produisait des pièces en fonte. Pour l'automobile, il a été repris par le groupe Europlasma qui veut y fabriquer des obus. Mais ce groupe tarde à tenir ses engagements. Alors hier, les syndicats ont lancé un droit d'alerte économique. Maël Le Goff est le délégué CGT de la fonderie de Bretagne.
Nous, il nous paraissait évident de déclencher un droit d'alerte économique, tout simplement, parce qu'on n'a aucune visibilité avec Europlasma. Voir leur business plan qui était initialement prévu au tribunal de commerce, qui pour l'instant n'est pas respecté du tout. On devait fabriquer 250 000 corps d'obus d'ici fin de l'année 2025, on en fera zéro. L'année prochaine, on avait aussi dans le business plan un chiffre d'affaires à 40 millions d'euros. Pour l'instant, dans les tuyaux, on en voit qu'il n'y a que 15 millions d'euros. Sur les 11 semaines à venir, on a 9 semaines d'activité partielle, donc c'est-à-dire de chômage, et 2 semaines de boulot. Donc voilà, c'est beaucoup d'inquiétude sur ce qui était prévu initialement à la sortie du tribunal de commerce et ce qui se passe maintenant.
Maël Le Goff au téléphone de nos confrères d'ici Breizh-Izel. Nous parlions à l'instant du projet de fabriquer des obus en Bretagne. Tout cela est évidemment lié au réarmement des pays européens en raison de la menace russe. Aujourd'hui, les alliés de l'Ukraine se réunissent autour du Premier ministre britannique pour discuter des livraisons d'armes de longue portée à Kiev. Hier, les pays de l'Union ont bloqué, ils n'ont pas réussi à progresser sur l'utilisation des avoirs russes gelés. Le problème, c'est que la Belgique, où se trouve l'essentiel de ces fonds, la Belgique est très réservée. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Fabien, la Belgique a un peu peur de se retrouver en première ligne si elle libère l'argent.
Et oui, parce que le Royaume craint des représailles, un bilatéral direct de la part de la Russie. C'est une société financière belge dénommée Euroclear, où sont domiciliés la grande majorité de ses avoirs russes gelés en Europe, environ 200 milliards d'euros. Le soutien à l'Ukraine, d'accord, précise le Premier ministre Bart De Wever, mais à condition que les 27 ne le laissent pas seul face à Vladimir Poutine.
Il nous faut une mutualisation des risques, parce qu'on risque que la Russie va lancer des recours pour des dizaines de milliards d'euros, même des centaines de milliards d'euros. C'est dangereux. Il y a des autres pays où il y a aussi des avoirs gelés qui n'ont jamais parlé là-dessus. Donc il me faut de la transparence, qui a combien. Et si on bouge tous ensemble. Sinon, on risque que la vengeance russe va se focaliser sur la Belgique. Et la vengeance peut être très concrète. Ils peuvent saisir des entreprises belges en Russie. Les Russes, ils vont réagir.
Il faut un fondement juridique clair, estime le Premier ministre belge, qui souligne que cette idée de prêt adossé à des avoirs gelés est une première. Ça n'a jamais été envisagé auparavant. Les 27 États membres qui ne veulent pas enterrer l'idée pour autant donnent mandat à la Commission européenne d'améliorer sa copie d'ici décembre.
Fabien Cazot à Bruxelles pour Inter. C'est l'un des 27 pays de l'Union. Jour de vote en Irlande pour élire une présidente, puisque ce sont deux candidates qui sont en lice. La gauche est favorite de cette fonction de président en Irlande. Irlande concentre toutefois peu de pouvoir. Quant au Cameroun, cela fait maintenant 11 jours que les électeurs y attendent le résultat de l'élection présidentielle, de savoir si Paul Biya, 92 ans, en lice pour un 8e mandat, est réélu. Mais cette fois-ci, l'attente est interminable, jalonnée de nombreuses manifestations de l'opposition un petit peu partout dans le pays. Bonjour Virginie Pironon.
Bonjour Jérôme.
Pourquoi est-ce si long ?
Alors cette situation traduit la fragilité d'un pouvoir conscient d'avoir perdu la bataille politique, alors que selon Le Monde Afrique, je cite, « le biaïsme, mélange de clientélisme tribal, corrompu et répressif, se meurt depuis des années ». Des chiffres provisoires rendus publics le 20 octobre accordent à Paul Biya 53% des voix, contre 35% pour son adversaire, ancien ministre passé à l'opposition, Issa Tchiroma Bakary. Un candidat qui revendique la victoire avec des chiffres exactement inverses depuis la
la semaine dernière, ses partisans manifestent à Garoua, le fief d'Issachiroma, au nord du pays, mais aussi dans le grand port du sud, Douala, et dans la capitale Yaoundé. Paul Biya, dont la capacité à gouverner après 43 ans de règne sans partage interroge régulièrement, aurait essayé de tendre la main à son adversaire en lui proposant, selon Jeune Afrique, un poste de Premier ministre aussitôt refusé. Le pays retient son souffle. Depuis deux jours, des rassemblements publics ont été interdits. La proclamation des résultats officiels devrait avoir lieu lundi dans la matinée.
Éclairage signé Virginie Pironon. Les accès routiers au Futuroscope bloqués ce matin dans la Vienne par plusieurs dizaines d'agriculteurs avec leurs tracteurs. Tout cela en pleine vacances scolaires. Ils protestent contre les futures répartitions de la consommation d'eau dans le département. Une étude scientifique qui détermine le partage entre usages industriels et agricoles vient d'être publiée. Elle préconise notamment une réduction moyenne d'environ un tiers des volumes d'eau dédiés à l'irrigation agricole. S'il vous arrive d'acheter du jambon espagnol, pata negra ou encore bellota, vous savez qu'il est cher. Parmi les plus chers, encore faut-il que le produit corresponde à l'étiquette. Le parquet de Créteil a annoncé hier avoir engagé des poursuites pour pratiques commerciales trompeuses contre trois sociétés de charcuterie. Trois entreprises qui sont installées en Ile-de-France. Vous allez nous expliquer le problème, Sophia Berada. Qu'est-ce qu'on leur reproche ?
De peut-être vendre des jambons moins haut de gamme que ce que l'appellation pata negra exige. Compte tenu de la procédure judiciaire en cours, la répression des fraudes refuse de communiquer sur ce qui les a interpellés précisément. Mais les agents de Bercy ont mené une enquête chez Casa Ramon, au comptoir du pata negra et chez ABG Holding, constaté des fraudes qui peuvent porter un préjudice aux intérêts des consommateurs. Ils ont donc proposé aux deux propriétaires, ce sont les mêmes pour les trois entreprises, de payer une amende. Leur avocat, Yvan Itzkovitch.
Mes clients n'ont pas accepté puisqu'ils contestent toute infraction. Je suis quand même très étonné que à la fois le parquet et la DGCCRF, je ne sais pas qui a communiqué à la presse sur des faits qui font l'objet de poursuites mais qui ne sont pas encore jugés. On salit finalement l'image de mes clientes en faisant croire aux consommateurs qu'ils achètent des mauvais produits alors que je regrette, mais les faits ne sont pas jugés.
Ils défendront leurs arguments devant le tribunal de Créteil le 5 janvier prochain. Ils risquent jusqu'à 1,5 million d'euros d'amende.
Bon, je l'ai dit, Sophia, c'est un produit qui se vend cher. Il y a un fort enjeu financier.
Oui, ce type de jambon coûte jusqu'à 500 euros pour une pièce de jambon entière avec un os. Car c'est un produit artisanal très long à fabriquer, comme l'explique le cuisinier Xavier Hamon, auteur d'un livre sur ce jambon d'exception.
Pour les meilleurs jambons, on a un processus très long, jusqu'à 2 ans plus minimum 3 ans d'affinage. Il peut être très tentant de produire sous la même appellation ou en masquant l'appellation un jambon d'une moindre qualité qui peut avoir un aspect à peu près similaire, dont le processus va durer simplement 18 à 24 mois.
D'autant que le marché de la charcuterie en France est très concurrentiel, surtout en matière de jambon sec. En 25 ans, les importations de produits italiens et espagnols ont été multipliées par 4 selon la fédération du secteur.
Sophia Berada, une commune peut-elle vendre l'exploitation de son nom à une entreprise ? C'est l'histoire de Vendôme, sous-préfecture du Loir-et-Cher, qui il y a 4 ans a fait affaire avec le groupe de luxe LVMH en cédant le nom de la ville, en tout cas son utilisation commerciale, contre 10 000 euros. Eh bien David Mal, la justice vient d'annuler cette vente.
Le tribunal administratif d'Orléans a non seulement jugé que la cession de la marque Vendôme n'était pas possible, mais a aussi estimé que la commune ne justifiait pas du prix de 10 000 euros et qu'il était donc impossible de contrôler les modalités de calcul. Les fameux 10 000 euros, montant dérisoire pour un géant du luxe, c'est justement ce qui avait choqué les Vendômois il y a 4 ans. Florent Gropart était conseiller municipal d'opposition et il est satisfait de ce dénouement.
Je pense que c'est une reconnaissance déjà de ce que l'on avait dit à l'époque et on a quand même été un peu taxé de mauvais joueurs. Ça a été très tendu à cette époque. Et nous, ce qu'on avait d'ailleurs recommandé à la ville, c'était plutôt de faire ce que les autres villes font habituellement, c'est-à-dire de faire un système de licence. C'est-à-dire que si une marque veut utiliser le nom de Vendôme, c'est super, on est complètement OK, mais que ça se fasse sous des licences très transparentes. C'est ce que fait Deauville, par exemple, et ça fonctionne parfaitement.
Mais avant cette décision du tribunal administratif d'Orléans, qui englobe toutes sortes de produits dérivés estampillés Vendôme, il y a 2 ans, l'INPI, l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, avait déjà mis un coup d'arrêt à cette vente pour 10 ans à Louis Vuitton. Car deux concurrents, les joailliers Cartier et Van Cleef & Arpels, avaient fait remarquer qu'il n'y a pas atelier de production de bijoux Vuitton à Vendôme et donc le contrat de vente était devenu caduc. Mais cette fois-ci, le maire promet que le dossier est bel et bien clos et qu'il ne fera pas appel.
Explication ici, Orléans, la ville de Toulon, elle pleure l'une de ses légendes sportives, André Herrero, ex-joueur du RC Toulon et de l'équipe de France, est mort la nuit dernière à l'âge de 87 ans, 22 sélections en équipe de France de rugby, deuxième ou troisième ligne, dur au mal. Lors de la finale 1971, il avait terminé le match avec deux côtes cassées. Il avait aussi, bien des années plus tard, pris position dans les années 90 avec son frère, Daniel Herrero, contre la montée du Front National dans son département du Var. C'est une question qui se pose dans beaucoup de familles dans lesquelles il y a des ados. Comment leur donner leur argent de poche, plutôt liquide ou plutôt virement bancaire? Les jeunes sont en tout cas de plus en plus nombreux à posséder une carte bancaire. Au moins 1,4 million de mineurs en sont titulaires, nous dit la Fédération bancaire française. Et ces jeunes que vous avez rencontrés à Paris apprécient plutôt bien Clémentine Sabrier.
Fini les pièces de monnaie et les billets. Depuis quelques mois, Gwendal, 14 ans, reçoit son argent de poche sur sa carte bancaire.
Mes parents me donnent 10 euros tous les mois. Ça me sert à déjà gérer mon argent, à être indépendant.
Le collégien peut utiliser sa carte quand il le souhaite. Myron, lui, doit parfois vérifier avec ses parents.
Si c'est des trucs avec une grosse somme, je leur demande. Mais par exemple, si c'est un paquet de bonbons, non, je leur demande pas trop.
Vanessa a également choisi la carte pour l'argent de poche de ses trois enfants parce que pour elle, c'est plus simple.
Je peux leur virer l'argent comme je veux, dans la journée, s'ils ont besoin, en cas d'urgence ou problème. Je leur donne tous les mois une certaine somme. Mais dans la semaine, je leur donne un petit peu à chaque fois.
Une petite rallonge pour un repas ou une sortie. Les comptes bancaires en famille, une mine d'or pour les banques, selon Philippe Crevel, économiste et directeur du Cercle de l'épargne.
On crée donc évidemment une fidélité à la fois chez les enfants, chez les parents. Et en plus, on peut avoir une durée de vie de la relation commerciale qui se rallonge. Parce qu'évidemment, on se dit, bah, si on a un enfant de 10, 12 ans, on peut l'accompagner sur de très nombreuses années. Pour les banques, c'est évidemment extrêmement intéressant.
Et puis l'aspect sécuritaire séduit les parents. Si jamais leur enfant perd ou se fait voler sa carte, il suffit juste de la bloquer.
Voilà de quoi nourrir quelques discussions, voire négociations durant ces vacances scolaires. Reportage Clémentine Sabrier, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Puis à partir de 13h30, la journaliste Émilie Lanaise. Avec nous, elle dévoile la vraie histoire derrière le roman à succès Vipère au poing d'Hervé Bazin. Un fils qui, en fait, a fait vivre l'enfer à ses parents et surtout à sa mère, qu'il avait surnommée Folcoche. C'est d'ailleurs le titre de son enquête. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, notre feuilleton dans notre salon de coiffure de Mâcon. Notre gérante a du mal à préparer sa succession. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Virginie Troussier et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Virginie, vous nous emmenez sur nos pistes de descente.
À l'approche de l'ouverture de la Coupe du Monde de ski alpin, la sécurité redevient une préoccupation majeure. Adrien Théo, vétéran de l'équipe de France, appelle à repenser le rapport au risque.
Et avec vous Frédéric, une comédienne.
Isabelle Gélinas, qui, adolescente, écoutait tellement Barbara qu'elle a bien failli en dégoûter ses parents. Elle rêvait de lui ressembler. Aujourd'hui, elle l'écoute encore, et avec elle, nous écouterons la chanson « Parce que je t'aime ».
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Salut, petites oreilles.
Il était une fois...
Mon petit France Inter.
Découvre Mon petit France Inter, la nouvelle radio rien que pour toi.
Allez, c'est parti.
Une ribambelle d'histoires toute la journée.
Le trésor de Rackham le Rouge est à nous.
Adieu, plancher des vaches, c'est parti.
C'est aussi l'histoire d'un
haricot magique.
Et ta musique préférée.
Laisse-moi te chanter.
Écoute Mon petit France Inter, ta radio sans publicité,
et embarque pour une journée pleine d'aventures et de découvertes.
Mon petit France Inter.
Nous, au moins, vos enfants nous écoutent.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
France Inter, partenaire de Arco, un film de Hugo Bienvenu. Oh,
t'es qui toi ?
Une petite fille voit un mystérieux garçon vêtu d'une tenue arc-en-ciel tomber du ciel. Il vient d'un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible.
Comment tu t'appelles ? Moi c'est Iris. Arco.
Iris le recueille et va l'aider par tous les moyens à rentrer chez lui.
Faut pas qu'on reste ici, je pourrais jamais rentrer chez moi.
Arco, cristal du meilleur film au Festival d'Annecy, actuellement au cinéma. Wouhou ! Un film France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est un temps plus calme mais encore perturbé.
Oui, bonne nouvelle, le vent affaiblit. Alors il reste quand même fort sur la Corse, surtout au nord, jusqu'à 110 km à l'heure attendue, davantage même au Cap Corse. Ailleurs, pas plus de 50 à 70 km à l'heure. Il y a aussi des pluies, elles arrosent les régions allant de la Vendée et du nord de l'Aquitaine vers les Alpes, où il neige autour de 1400 à 1700 mètres. Plus au nord, pas mal de nuages, quelques éclaircies encore bien appréciables, mais de plus en plus de nuages. On a quelques averses également, plus nombreuses et parfois orageuses de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, du Pays Basque vers la Méditerranée, là c'est du soleil et puis des températures un petit peu justes, hein, 1 à 3 degrés sous les normales de saison, 11 à 15 degrés sur une grande partie nord, 16 à 18 pour le sud-ouest, jusqu'à 23 en Méditerranée. Demain, des nuages assez nombreux et des pluies ou des averses, et parfois orageuses d'ailleurs sur le sud de la Corse pour l'après-midi.
Merci Elodie Calac, encore quelques jours pour vous parmi nous à Radio France. Pour moi c'était ma dernière avec vous, de profiter de votre savoir pour informer les auditeurs sur la météo. Je voudrais vous saluer, vous remercier, vous dire à quel point c'était un plaisir d'être avec vous tous les jours dans ce 13-14, et bonne continuation pour la suite, bien évidemment. À bientôt. Elodie Calac, Météo France.
Merci Jérôme.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Folcoche, peu de personnages de romans ont inspiré autant de haine dans la littérature française. Une mère de famille qui frappe, punit, humilie ses enfants au point qu'il tente de la tuer et lui attribue ce surnom, Folcoche, mélange de folle et de cochonne. Cette histoire sert de trame au roman d'Hervé Bazin, sorti en 1948, Vipère au poing, vendu à 9 millions d'exemplaires. Et Hervé Bazin le dit clairement, c'est un récit autobiographique. Folcoche, c'est sa mère. Eh bien, cette histoire relève à la fois du meurtre et à la fois de l'escroquerie littéraire. Bonjour Émilie Lanaise.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine L'Express, c'est ce que vous affirmez dans cette enquête publiée sous le titre Folcoche. C'est aux éditions Grasset, une enquête qui dévoile les mensonges et le passé de délinquant et de mythomane d'Hervé Bazin, devenu pourtant l'un des auteurs les plus en vue du pays pendant des décennies, l'un des plus lus aussi. Que vous ayez lu le livre qui est devenu une bande dessinée il y a peu de temps, vu le film aussi, avec Catherine Fraud qui sera avec nous dans quelques minutes. Appelez-nous 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application Radio France. Émilie Lanaise, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Pourquoi ouvrir le couvercle de cette histoire qui semble écrite? Il n'y a plus rien à en dire.
Est-ce que j'avais de la curiosité pour ce personnage de Folcoche? Je me disais, mais qui était cette femme qui passe, enfin, qui passait ou qui passe pour être la mauvaise mère absolue, la mauvaise mère de quasiment de toute la France? Enfin, une Folcoche, tout le monde sait que c'est une mère dénaturée, une mère atroce, une ogre. Et je me suis demandé quelle avait été sa vie, comment avait-elle été enfant, jeune fille, qui était la vraie Paul Guillotot, le nom de jeune fille de la mère d'Hervé Bazin. Et c'est en explorant sa biographie, sans trop savoir ce que j'allais trouver, que je suis tombée sur de la correspondance familiale et que j'ai découvert que Folcoche était loin d'être une Folcoche et que cette histoire était non seulement fausse, mais surtout qu'elle avait été écrite à dessein, qu'il s'agissait d'une vengeance d'Hervé Bazin contre sa mère et contre sa famille pour récupérer sa part d'héritage alors qu'il est en prison.
Mais il n'y a pas un élément, il n'y a pas un moment, une rencontre, une lecture, quelque chose qui vous dit « mais c'est pas possible, ça peut pas... » C'est trop noir pour être vrai, si je puis dire.
Non, alors il y avait vraiment de la curiosité pour la biographie de cette personne. Et une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller visiter leur château, qui est aujourd'hui un musée. Et je me souviens très bien qu'en me raccompagnant, l'actuel propriétaire du château m'a montré de la pelouse et m'a dit « Regardez, c'est là que Folcoche jouait au tennis ». Et cette anecdote m'avait intriguée parce que je m'étais dit, c'est pas
possible
que Folcoche joue au tennis. Folcoche, elle est vieille, elle est moche, elle est radine, elle fait du mal à ses enfants. Je ne l'imaginais pas en jupette en train de jouer au tennis. Et c'est vrai que là, il y a une incongruité, mais c'était avant que je découvre la correspondance qui m'a confirmé en effet qu'elle n'était pas Folcoche.
Qui était-elle vraiment? Paul Guillotot, vous publiez son nom, vous mettez son nom en avant. Paul Guillotot, la mère d'Hervé Bazin, qui était-elle au fond? Et vraiment?
Alors, c'était la fille d'un sénateur et la descendante du côté maternel de très riches banquiers. C'est d'abord une femme de la grande bourgeoisie parisienne. Ses parents sont très fortunés, mais ils n'ont qu'une envie de s'occuper d'elle. Donc, ils la mettent dans un internat quand elle a 9 ans. Ils la ressortent qu'elle en a 18. Et ils ne la voient jamais. Elle n'a jamais passé de vacances avec ses parents. Elle n'a donc quand même été beaucoup privée d'amour familial. Et elle a été mariée à un jeune garçon, Jacques Hervé Bazin, qu'elle avait vu 2 fois. Et la deuxième, c'était les fiançailles. Et ce monsieur Curieux s'est avéré très, très passionné par sa collection de mouches, beaucoup moins par le travail et encore moins par l'idée de gagner de l'argent. Et il a emmené toute sa famille dans leur propriété familiale, qui était une propriété destinée à être une résidence d'été. Elle s'est retrouvée, cette jeune femme, qui ne connaissait rien à la vie de famille, démunie dans un château où il faisait très froid, avec un potager qui ne donnait pas, et trois garçons qui la dépassaient de leur énergie. Elle ne savait pas très bien faire. Et notamment son deuxième fils, Jean, qui est le vrai prénom de l'écrivain Hervé Bazin, qui très tôt a commencé à voler tout ce qu'il trouvait, et à mentir. Et elle a été vite dépassée par cet enfant, ne sachant comment faire avec.
Mais la trame de Vipère au Poing, ce sont quand même les violences de Folcoche. Elles n'ont pas existé, ces violences ?
Folcoche n'était certainement pas une bonne mère au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Il faut d'abord un peu se remettre dans le contexte. On est dans les années 1920-1930. Elle était dure. Je rappelle donc qu'elle a été elle-même privée d'amour maternel. C'était certainement pas une mère tendre, mais elle n'a rien à voir avec le monstre littéraire que son fils a écrit.
Vous décrivez tout de même une scène, il y a un témoignage d'une proche de Paul Guillotot qui raconte des vacances dans l'Anjou. Elle est chez eux et elle dit que Paul Guillotot lui inflige une punition pour une poire chipée dans le verger, passée tout un après-midi à genoux sur les graviers. Il y avait quand même des sévices dans cette famille.
Oui, sauf que cette anecdote a lieu bien avant, enfin bien après, à l'époque où, et c'est ce que je raconte dans ce livre, où Paul Guillotot, la mère d'Hervé Bazin, va devenir Folcoche. Parce que ce qui est absolument stupéfiant dans cette histoire, c'est que ce monstre que son fils invente par écrit pour se venger, ce monstre que son fils décrit, elle va, au bout d'un moment, accepter de le devenir. Parce qu'elle a compris que la seule voie de survie pour son fils, qui a été interné à plusieurs reprises, qui a passé des années de prison, qui a eu 3 procès, elle comprend que la seule façon pour lui de guérir de la folie qui le ronge depuis qu'il est petit, c'est de devenir écrivain. Et elle va pour partie devenir une Folcoche. Elle va pour partie devenir un peu crado, elle se trimballe comme une clocharde, elle va se laisser aller. Elle est devenue le personnage de papier que son fils a fait, comme s'il avait réussi à la métamorphoser avec son stylo.
Et la scène où elle pique les mains de ses fils, où elle pique ses fils avec une fourchette, ça n'a pas existé par exemple. C'est une scène qui a marqué des centaines de milliers de lecteurs.
Ça a existé, je rappelle juste que le père est aussi assis à table et qu'il
il
ne
peut
bouge,
intervenir,
et qu'il
ouais.
ne bouge pas et qu'il n'a rien dit. Elle a quand même pris cher pour les deux. Et pardon de le rappeler, c'était des méthodes d'éducation qui paraissent aujourd'hui absolument insupportables. Elles le sont, elles l'étaient peut-être moins en 1922.
Alors, une grande actrice a incarné, je l'ai dit, Folcoche à l'écran il y a quelques années, près de 20 ans maintenant, le temps passe. Mais elle n'a rien oublié de ce rôle, vous allez l'entendre. C'est Catherine Fraud, 2004, le film est signé Philippe de Broca, il lui a valu de très nombreux courriers. Elle va nous en parler, on l'a joint il y a quelques heures. Et votre ouvrage, Émilie Lanaise, lui donne évidemment envie de se replonger dans cette histoire.
Oui, j'avoue, ça me donne envie parce que bah, c'est les contradictions, c'est intéressant. Voilà, il faut voir. C'est des paradoxes. De toute façon, dans le film qu'on a tourné avec Philippe de Broca, il y a déjà un moment, hein, il n'y a pas loin d'une vingtaine d'années, déjà, il y avait quelque chose, non pas sur l'enfant qui aurait été insupportable. Moi, je me souviens que dans le film, il n'y avait pas du tout cette notion-là, mais il y avait une sorte de... d'explication sur sa fragilité à elle. Elle revenait du Vietnam, elle avait rencontré quelqu'un là-bas, elle était probablement enceinte de son petit dernier, non pas de son mari, mais de etc. Et elle était malade. Il y avait quelque chose de différent déjà, de différent du livre, mais enfin, de toute façon, au niveau du jeu et de la performance éventuelle d'une actrice pour jouer ce rôle, c'était extraordinaire de jouer l'idée d'une monstruosité. Mais elle était réellement épouvantable, comme dans le livre. C'est-à-dire que de jouer ça, ça me fait pas reculer du tout. Hein. À partir du moment où c'est correctement écrit et présenté, la monstruosité, évidemment, elle est intéressante à travailler. D'ailleurs, j'ai jamais reçu autant de lettres de jeunes, d'adolescents, de pré-adolescents.
Qui vous disaient quoi ?
Qui avaient une compassion incroyable. Mais madame, qu'est-ce qui se passe, mais madame, ça va aller, mais madame, on voudrait vous aider, etc. C'était assez incroyable. J'avoue, ça m'a épaté. Moi, je suis quelqu'un d'assez diverse. Je vais toujours là où on m'attend pas vraiment. J'aime bien fouiller, j'aime bien me surprendre pour surprendre et de travailler un rôle de cette teneur-là. C'est beau, quoi. Ça fait partie des comportements humains. Oui, tragique, dément. Je vais lire le livre de cette dame avec intérêt parce que bon, il y a sûrement des contradictions cachées et qu'aujourd'hui on se pose pas mal de questions sur l'éducation, sur qui fait quoi. Qui est dur, qui ne l'est pas, etc.
Catherine Fraud, téléphone de Corinne Boulou, Émilie Lanaise, une réaction. Notamment sur les interrogations sur le rôle des parents.
Ce qui est touchant dans ce que raconte Catherine Fraud, c'est que tous les jeunes qui lui ont écrit, comme rarement, dit-elle, ont eu de la compassion pour elle.
Exactement.
Et non pas pour l'enfant,
oui, oui.
Brasse Bouillon. J'attendais ça dans sa phrase. C'est étonnant parce que il s'interroge en fait pour elle, actrice, d'avoir dû jouer le rôle d'un monstre. Elle sera peut-être contente d'apprendre que finalement elle a joué le rôle d'une femme qui a beaucoup souffert, mais peut-être pas tant le rôle d'un monstre.
Vous expliquez donc que Hervé Bazin est en partie, en tout cas sur son histoire familiale, un escroc. Qu'est-ce que ça change à la qualité du livre, Émilie Lanaise ? Est-ce que moi, en tant que lecteur, ça me concerne ? On a une œuvre littéraire, il y a la liberté de l'écrivain, et ça donne une œuvre littéraire qui a été appréciée par des millions de lecteurs.
Ça ne change rien. Il faut continuer de lire Vipère au Poing. Vipère au Poing demeure un monument de notre patrimoine. C'est un des livres que nous avons tous lus au collège et j'espère qu'il en continuera ainsi.
Vous conseilleriez toujours cette lecture aujourd'hui après avoir écrit ?
Parce qu'il y a des enfants, malheureusement, dont les mères sont vraiment des folcoches. Et pour ces enfants-là, il faut lire Vipère au Poing. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai rien retiré à l'œuvre. J'ai juste exploré le roman caché dans le roman. J'ai juste raconté qu'il y avait une autre histoire à l'intérieur. Et en lisant le livre que j'ai écrit sur Folcoche, peut-être qu'on lit autrement, différemment, de manière enrichie, Vipère au Poing, et c'est tant mieux.
Elisabeth est en ligne avec nous. Bonjour Elisabeth.
Oui, bonjour à vous tous.
D'où nous appelez-vous ? Où est-ce que vous êtes, Elisabeth ?
J'habite pas loin de Rambouillet, dans une petite commune.
Nous vous écoutons.
Oui, écoutez, effectivement, moi j'ai 80 ans et mon ex-mari m'avait tout de suite fait lire ça et il appelait sa mère Folcoche. Et moi, maintenant que j'apprends ça, je me dis pauvre femme. Et pareil pour ma belle-mère, elle n'était pas parfaite, mais bon, elle ne méritait pas ça parce que quand même. Et j'avoue que ça me sent trompée, vous voyez, ça me fait quelque chose.
Merci.
Il en a écrit, il en a écrit d'autres. Il a écrit Le Matrimoine, de toute façon, on avait toute sa vie. Hein.
Mais ça reste quand même son plus grand succès qui a fondé tout son parcours littéraire. Par la suite. Merci Elisabeth pour votre appel. Émilie Lanaise, on prend compte, je l'ai dit, mais à quel point ce mot Folcoche est rentré dans notre vocabulaire.
Oui, et à cette auditrice qui dit avoir été trompée par le livre, elle n'a pas été trompée par le livre. Le plaisir de lecture reste intact, l'histoire est touchante, l'écriture est magnifique. Mais en effet, Folcoche, c'est un mot qui désigne la mauvaise mère. Et peut-être aujourd'hui qu'il faudra en inventer un autre.
Quand il y a une histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, parfois on a envie d'y croire. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a eu des alertes quand même. Il y a eu des jalons, Émilie Lanaise. Il y a des papiers dans les années 30 sur les escroqueries d'Hervé Bazin. Je crois même qu'il y a un livre écrit dans sa famille pour dire « mais c'est pas la vraie histoire ». Mais personne n'en tient compte, à tel point qu'il y a un silence dans la famille, où on sait, mais où on ne dit rien.
Alors, le silence de la famille, c'est pas le même que le silence de la société autour d'Hervé Bazin. Le silence de la famille, c'est le silence de la honte. Ils avaient tous les moyens de rétablir la vérité. Ils avaient tous les documents policiers, les documents judiciaires, les documents psychiatriques, les comptes rendus de ses évasions d'asile, de ses passages en prison. Ils n'ont rien fait car ils ont honte. Ils ont présenté de manière aussi terrible qu'ils ont honte. Ils ne diront jamais rien. Ils laisseront leur fils, leur frère, leur oncle, leur neveu devenir ce personnage. Ce qui est plus intéressant, c'est le silence de la société autour de lui. Parce qu'Hervé Bazin va devenir membre de l'Académie Goncourt, le plus jeune à l'époque. Il va présider l'Académie Goncourt pendant 25 ans. Et il y a des gens qui savent, évidemment, il y a des gens qui savent, ceux qui étaient en prison avec lui, ceux qui étaient à l'asile avec lui, les victimes de ses escroqueries, de ses cambriolages, tout le monde. Enfin, il y a des gens qui savent. Et c'est fascinant de voir que parce que ce mythomane, c'est un mythomane flamboyant, extraordinaire, parce qu'il s'est, au lieu de se cacher, il s'est mis au devant de la scène, il s'est mis en pleine lumière, et cette exposition l'a protégé.
Vous diriez que le silence de sa mère, Paul Guillotot, est un acte d'amour?
J'en suis certaine.
Pour son fils.
J'en suis certaine. Je pense qu'elle a d'abord beaucoup pleuré à la lecture de Vipère au poing. Elle a mal, elle souffre. Et puis elle se tait parce qu'elle a compris que l'écriture était la voie de la rédemption de son fils. Et je dois dire qu'il y a dans cette femme qui va devenir, je l'ai dit précédemment, elle-même le personnage du roman de son fils, jusqu'à en adopter la posture physique, mais il y a dans son abnégation, dans son silence, dans la honte à laquelle elle consent d'être à jamais la mauvaise mère, un acte d'amour très paradoxal et très compliqué, mais qui est bouleversant.
Histoire incroyable, révélation littéraire que vous nous racontez dans Folcoche, c'est aux éditions Grasset. Merci Émilie Lanaise.
Merci
d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, 13h45. Une semaine dans leur vie. Retour une dernière fois dans notre salon de coiffure de Mâcon pour notre feuilleton. C'est le peigne fin où Isabelle, la gérante, à 60 ans, aimerait bien pouvoir préparer la suite, trouver un salarié à plein temps, mais pour l'instant, sans résultat.
Je poste sur Instagram ou autre des demandes de... Ouais, j'ai envie d'embaucher, des fois, certaines fois, vraiment, j'ai envie d'avoir un bras droit avec moi, parce que je me dis que je vais pas y arriver, j'ai quand même une grosse demande et puis une santé qui s'affaiblit, donc il arrive un moment où il faut quand même savoir soit lâcher les armes ou faire autrement. Et j'ai posté pour embaucher et sur 1200 vues, j'ai eu aucune candidature. Hein. Et ben voilà, cette cliente va pouvoir passer au bac, on va lui faire un super shampoing à l'argile. Ça va détoxifier un petit peu son cuir chevelu. Et puis voilà. Hop. Mais le bras droit, j'en ai eu hein, quand même. Hein, tout au long de ma vie, j'en ai eu. Mais après, j'en ai eu la dernière que j'aimais beaucoup, qui est partie donc dans le nord de la France. Une autre qui avait envie de vivre autre chose. Et puis c'est vrai que toute une vie à être dans le même salon ou de faire la même chose... Certaines fois, on se repose des questions, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai perdu des gens que j'aimais beaucoup, mais je comprends tout à fait leur choix, en fait. Hein. Hop. J'ai mes petites jeunes. Les petites jeunes, elles veulent bosser. Elles sont là.
Au revoir, mesdames.
Au revoir.
Je m'appelle Chloé, j'ai 16 ans, bientôt 17. Je suis dans la coiffure depuis mes 14 ans. Ça me plaît toujours autant, malgré de mauvaises expériences dans d'autres salons que j'ai eus. Et on me faisait rien faire, j'étais debout comme un piqué. À part faire des shampoings, c'est tout ce que je faisais. Et ça m'a un peu dégoûtée, mais là j'ai retrouvé une bonne patronne. Et j'espère y arriver et j'espère obtenir mon CAP à la fin de l'année.
Ah oui, c'est un problème.
Séparation médiane, donc pointe d'oreille droite à pointe d'oreille gauche. Et ensuite, on fait la première coupe entre les deux tendons de nuque. Voilà. Donc il y a un repère quand même.
Donc là, elle fait sa première coupe toute seule.
Voilà, elle va faire sa première coupe toute seule. Ouais, elle s'en sort super bien, elle comprend bien les choses. Donc là, la coupe, par contre, je ne sais pas, on verra. Ça repousse.
Alors, madame, ça fait quoi d'être coiffée pour la première fois par une apprentie?
Eh ben, je pense que ça peut être très motivant pour elle. Ça fait un petit peu peur pour moi, mais j'ai confiance. Elle m'a dit qu'elle n'allait pas me rater, donc il n'y a aucune raison. Et puis après, comme dit Isabelle, ça repousse.
On va incliner sa tête en bas. Si on la remonte, et bien ce ne sera pas droit.
Objectif, il faut que ce soit droit.
Voilà, exactement.
Là, j'avance. Hein. Je vais avoir droit à la retraite comme tout le monde. Après, voilà, si je pouvais passer le flambeau à quelqu'un qui est passionné ou qui a envie de continuer l'aventure, ça serait vraiment avec plaisir que je le formerais. Hein. C'est... Quitte à être salarié ou autre pour l'aider en attendant ou être là quand il a besoin de moi. C'est vrai que je peux donner ma lettre de démission à la propriétaire parce que je suis que locataire des murs. Donc j'ai six mois de loyer et puis après je peux fermer la porte à clé. Je peux faire ça.
Mais vous aimeriez partir et qu'il y ait un repreneur?
Bah oui, parce que c'est chouette. Puis toutes mes clientes sont chouettes, donc ça serait dommage de les laisser comme ça dans la nature.
C'était C'était le cinquième et dernier épisode de notre feuilleton au salon signé Mariam El Kurdi. Réalisation Vincent Godard.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France, le vendredi 13h49, la France des cimes et des océans avec Virginie Troussier. Aujourd'hui, Virginie, nous partons à Val Thorens où s'entraîne Adrien Théo, c'est le vétéran de l'équipe de France de ski alpin.
À l'heure où les montagnes blanchissent en Savoie, les sacs se bouclent. La saison commence, le traditionnel géant de Solden ouvrira la Coupe du Monde ce week-end. Cette année, il y aura 4 étapes françaises en décembre à Courchevel et à Val d'Isère. Adrien Théo a 41 ans et il est reparti pour une saison. Il est spécialiste des épreuves de vitesse, notamment de la descente. Il a dévalé des pentes inclinées à 85% à plus de 130 km/h sans autre protection que ses quadriceps cuirassés. Qu'on ne l'imagine pas casse-cou. La rigueur, la précision, l'intransigeance, c'est surtout cela son sport. Vous l'avez sans doute vu derrière une cabane du départ. Pendant l'échauffement, il fait défiler la piste jusque dans ses moindres reliefs. À flanc de montagne, il s'agit tel un pantin aérien. Il fait voler ses membres dans l'air, muscles figés dans sa combinaison en lycra, et lorsqu'il visualise les virages à venir, ses gestes semblent rythmer une danse tribale. Il mémorise chaque portion du tracé, car à plus de 130 km/h, la glisse ne s'improvise pas.
Et Adrien Théo a connu le meilleur comme le pire dans sa carrière.
Oui, le meilleur, des podiums sur les pistes les plus prestigieuses du circuit, et le pire, la perte de son ami David Poisson, mort à l'entraînement au Canada en novembre 2017. Un choc. À pleine vitesse, David Poisson a perdu un ski, traversé les filets de sécurité et percuté un arbre. Les images des secours resteront toujours, me confie Adrien Théo. Ce type d'accident n'était plus arrivé depuis la disparition de Régine Cavagnou en 2001. Quand le drame a eu lieu, Adrien Théo a réalisé à quel point les skieurs étaient tous soudés au niveau mondial. Nous avons mesuré tout le respect qui existait entre nous. Il y a de la concurrence, mais dans ce sport, il y a clairement une autre dimension très humaine, déclarait-il.
Et aujourd'hui, il appelle à une prise de conscience.
En effet, Jérôme, car hélas, le drame s'est reproduit. La jeune skieuse italienne, Mathilde Lorenzi, est décédée il y a un an pendant l'entraînement. Et en septembre dernier, le skieur italien Matteo Franzoso a également fait une chute fatale lors d'un entraînement au Chili. Combien de pertes tragiques devrons-nous encore subir avant d'ouvrir enfin le débat sur la sécurité, en particulier pendant l'entraînement, a écrit Adrien Théo sur son compte Instagram.
Alors, il appelle à prendre des mesures. Quelles sont les mesures, Virginie, qui sont aujourd'hui discutées pour rendre ce sport, donc le ski alpin, la descente, pour le rendre moins dangereux?
Pour Adrien Théo, l'urgence est de rassembler fédérations, entraîneurs et athlètes pour agir ensemble et rapidement. Le gilet airbag est désormais obligatoire. Avec un dispositif de capteurs et d'algorithmes, il se déclenche en moins d'un dixième de seconde avant l'impact. Mais la question n'est plus seulement technique, elle est éthique. Pourquoi les entraînements ne sont-ils pas soumis aux mêmes règles qu'en course? Ne faudrait-il pas créer de véritables centres d'entraînement communs aux différentes fédérations afin de garantir la sécurité sur les pistes et aux abords? Certains athlètes demandent des mesures strictes et des améliorations sur l'équipement, comme en Formule 1. Le matériel évolue, le niveau technique ne cesse d'augmenter. La descente est le laboratoire de la vitesse. Les corps se cognent, se fragilisent, volent. Des vibrations agitent les carcasses, pulsations qui rythment la vie des skieurs. Ils ont conscience du danger, mais refusent de se dire, dans le portillon de départ, que cette course pourrait être la dernière. Le risque zéro n'existe pas, mais la fatalité, elle, ne devrait jamais être une politique.
Virginie Troussier, chaque vendredi dans ce C'est la France. De C'est la France à C'est une chanson pour notre semaine Barbara, la dernière là encore avec vous Frédéric Pommier. Nous réécoutons votre entretien avec la comédienne Isabelle Gélinas. Elle est actuellement sur scène dans la pièce Un château de cartes aux côtés de Gérard Darmon. C'est à Paris, théâtre des Nouveautés, et elle a choisi Parce que je t'aime, le premier titre du 8e album de Barbara, Ma plus belle histoire d'amour. C'est un disque qui a bercé sa jeunesse.
Quand j'étais enfant, j'avais pas trop accès à la musique, à part la musique classique. Mais mon père était assez assez rigoureux là-dessus, c'est-à-dire que j'avais pas trop le droit d'écouter du rock, tout ça. Et donc j'écoutais un peu ce qu'ils écoutaient eux, et ma mère était folle de Barbara, mon père aussi d'ailleurs. Mais moi, je suis devenue encore plus folle. Enfin, je voulais m'habiller en noir. Je la trouvais d'une beauté exceptionnelle. Quand je serais grande, je serais Barbara, quoi.
Vous aviez envie de vous habiller comme elle, mais est-ce que vous le faisiez ?
Non. J'avais pas trop le droit de me mettre en noir quand j'étais petite. J'ai fini par les dégoûter, tellement j'écoutais. Je me souviens de mon père frappant à la porte de ma chambre, disant « Chérie, stop. Stop, Barbara, stop. » Parce que j'écoutais depuis 3 heures, Barbara, en faisant mes devoirs, en prenant ma douche, j'écoutais tout le temps. Et je me souviens de mon père qui adorait pourtant Barbara, me dit « Tu es en train de nous dégoûter de Barbara, donc s'il te plaît, change de disque. » Mais moi, je vais au bout des choses, alors...
Vous écoutez fort ?
Oui.
C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou, c'est parce que dans mes reins quand ton souffle me frôle, c'est parce que t'aimes, c'est parce que jour à jour, c'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, quand tu dis viens, je viens, tu souris, je souris, c'est parce qu'ici ou là, dans un autre pays, pourvu que tu y sois, c'est toujours mon pays. C'est parce que je t'aime que je préfère m'en aller, car il faut savoir se quitter avant que ne meure. Passer. C'est parce que je sais qu'il faut un presque rien pour défaire une nuit et se perdre au matin.
En fait, Barbara m'a accompagnée de mes 7-8 ans à mes 13-14-15 ans. Et au fur et à mesure, les chansons faisaient sens. Sauf cette chanson-là, que je ne comprenais pas quand j'étais enfant, puisque dans la chanson, en gros, c'est parce qu'elle l'aime qu'elle préfère le quitter avant que ne meure le temps d'aimer. Pour moi, c'était incompréhensible. Enfant, c'était incompréhensible.
Vous l'avez comprise à quel moment, cette chanson ?
Je l'ai comprise assez tard. Hein. J'ai compris le sens profond de la chanson vers, oui, 15 ans, peut-être. Je me suis dit, ah oui. Et puis, la mélodie est tellement belle aussi. Et la voix est tellement délicatement posée sur la musique.
Vous, ça vous est arrivé de partir parce que l'amour commençait à se...
Non. Jamais, j'ai jamais réussi à faire ça. Non, je me suis toujours dit si, ça va repartir vers du mieux et tout. Et en fait, j'ai pas du tout mis en pratique le conseil de Barbara, non.
Et ça n'a jamais refonctionné après ? Ou parfois cette...
Non, parce que comme disait très bien mon père, il n'y a pas de colle pour réparer. Quand c'est un tout petit peu fêlé, il n'y a pas de colle, ma chérie. Ça, je l'ai entendu.
Pour les histoires d'amour, il n'y a pas de colle ?
Il n'y a pas de colle, tu ne peux pas recoller. Donc, elle avait raison.
Ça, je ne veux pas.
Barbara, elle occupe toujours aujourd'hui une place importante dans votre discothèque.
Je l'écoute beaucoup moins qu'avant, mais parfois, tout d'un coup, j'ai envie, j'ai une pulsion. Il faut que j'écoute un peu de chansons de Barbara. Et quand j'en écoute une, en général, j'en écoute 30.
Et ça provoque quoi chez vous ?
Ça me ramène à l'enfance, à l'adolescence, ça m'élève. C'est pas la seule artiste qui me fait ça, hein, mais elle, c'est quand même un petit peu ma déesse.
Avant que ne meure le temps.
Parce que je t'aime, Barbara. C'était donc le choix d'Isabelle Gélinas au micro de Frédéric Pommier. Quelques notes de Barbara encore pour remercier l'équipe de ce 13-14 cette semaine. À la rédaction en chef, Laurélie Carive, Manuel Ruffès, Corinne Pellissier, Corinne Boulou, assistée de Joseph Ascal, Swad Bellani, Rachid Zourdani et Sylvain Lesage. À la préparation, Camille Poux-Jalaguet et Benjamin Ducy. À la technique, Arnaud Caillé et Ludovic Asselot. Je n'oublie pas nos standardistes. Lundi, Amélie Perrier sera là pour ce 13-14. Merci de lui réserver le meilleur accueil.